On va continuer l'étude dans l'épître de Jacques. On est rendu au chapitre 4, le verset de 6 à 10. Jacques, dans ces passages-là, on voit qu'il mange pas ses mots. Je sais pas qu'est-ce qui se passait parmi les chrétiens de cette époque-là. Quand il a envoyé cette lettre-là, c'est sûrement qu'il avait des besoins. Puis là, il a envoyé cette lettre-là en expliquant comment ça marche dans la vie chrétienne. Puis on a vu les semaines antérieures comment est-ce que il les a exhortés, Jacques a exhorté les frères et sœurs à faire attention aux convoitises charnelles, à faire attention aux tentations du diable, puis à faire attention aussi au monde, parce que ceux qui sont en amour avec le monde, ils deviennent adultères devant Dieu. Quand on parle en amour du monde, mais c'est en amour avec le péché qui est dans le monde. Puis qu'on se fait traiter d'adultère parce que Dieu, il chérit l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous. Il veut pas qu'il soit souillé, il veut pas qu'il soit attristé, il veut pas qu'il soit contrarié, contesté, il veut pas qu'il soit sali, dans un sens. Si on vit tout croche, qu'on fait toutes sortes de choses qui n'est pas de Dieu, on se fait entraîner dans des affaires, mais n'oublions pas que notre corps est le temple de l'Esprit-Saint. Il a pas toujours été le temple de l'Esprit-Saint. Mais à partir du moment qu'on a accepté Jésus, on a été pardonné, puis il nous a donné le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit est en nous afin qu'il demeure éternellement. La promesse, c'est pour être en nous pour l'éternité. Mais comme qu'on a chanté tantôt, des fois on peut vivre des choses puis qui déplaient à Dieu grandement, puis au point qu'on peut même s'en détourner de Dieu. Puis que là, lui, il va être attristé, il va être éteint, il va même se retirer. Puis dans le chant, le chanter, il dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». C'est basé sur un verset d'une prière, d'une parole de David, un psaume de repentance, quand David il avait commis le péché avec Bathsheba, puis là, ça avait été dénoncé, puis il voulait pas perdre sa communion avec Dieu, puis il avait écrit un psaume, le psaume de repentance, je pense que c'est le psaume 51, puis dans cela, il raconte, il prie Dieu de lui pardonner, de lui mettre un esprit de bonne volonté, puis de pas lui retirer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu qui est venu en nous. Puis quand tu l'as reçu, faut que tu marches d'une façon à ce que tu ne l'attresses pas. Pour pas. Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu le Père, son Esprit. C'est Dieu. C'est comme lui-même qui est là. C'est Dieu le Père, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le titre du message, ça, c'est pour vous préparer à ce qui s'en vient dans les écrits de Jacques. Dans Jacques 4, les versets 6 à 10, ça dit « La grâce de Dieu, c'est supérieur de tout ce qui existe. Il n'y a rien de plus précieux que la grâce de Dieu, le cadeau que Dieu peut faire. Parce qu'une grâce, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, qu'on ne peut pas mériter, qu'on ne peut pas gagner. » Qu'on peut pas acheter. Fait que quand tu la reçois, c'est précieux. Puis il faut y faire attention pour pas gaspiller notre cadeau. Jusqu'à où une personne est prête à aller pour croître dans la grâce de Dieu? Pour croître dans la grâce de Dieu, c'est pour grandir dans la grâce de Dieu. Pour recevoir encore plus de grâce. Il y a des enfants qui sont tellement fins que leurs parents sont toujours prêts à leur donner des cadeaux. Parce que l'enfant est tellement fin, les autres en autour, ses frères et sœurs, ils n'écoutent pas, eux autres, ça tire moins de cadeaux. Voyez-vous, l'idée, c'est pas qu'il y a une injustice, mais t'es plus porté à faire du bien, puis à entourer celle qui est bien fin, puis ceux qui sont pas fins, mais t'es envoyé dans leur chambre un bout. Vrai ou faux? C'est de même la vie. Mais Dieu, c'est la même chose. Dieu, il veut qu'on aspire à croître dans la grâce. Il y a des versets qui en parlent. C'était pas le sujet que je parle. Là, je vais me tenir dans ce que Jacques mentionne. Mais réalisons-nous l'importance de la grâce de Dieu. Comment c'est important. Puis il faut pas prendre ça à la légère. Il y a rien dans ce monde qui est comparable. Dans le contexte de l'exhortation que Jacques dit ça, il a dit de résister aux convoitises charnelles, aux tentations du monde, Puis Jacques nous amène dans une profonde réflexion pour saisir l'importance de marcher avec Dieu, puis de grandir dans cette communion-là, pour que la bénédiction de Dieu soit de plus en plus sur nous. Puis Dieu veut le faire. Dieu bénit, chérit ceux qui marchent dans ses voies particulièrement. Nous, on est venus à Jésus, on a commencé à goûter les grâces de Dieu. Mais Dieu peut déverser, puis déverser encore plus ses bénédictions sur une personne qui est en amour avec lui, puis qui marche fidèlement. Je vais vous lire les passages qu'on étudie ce soir. C'est une suite de résister aux tentations, etc. Il dit, puis là, je vous répète le dernier verset qu'on a lu la dernière fois dans Jacques 4:5, il dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, puis il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu nous accorde une grâce immensurable. C'est un gros mot, immensurable. Ça peut pas se calculer. Il n'y a pas de mesure pour calculer la grâce de Dieu. C'est impossible de calculer la valeur. C'est incalculable. C'est immensurable. Sa grâce qu'il nous a accordée, parce que jamais on n'aura pu se la procurer. Jamais on n'aura pu faire quoi que ce soit pour la mériter. Il a fallu que Jésus paye ce que ça coûte pour qu'on puisse l'obtenir, puis il nous la donne comme un cadeau, sa grâce. Sa grâce, ça dit, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous donne, parce qu'on ne peut pas la mériter. Ça ne se mesure pas en comparaison surtout avec ce que le monde ou notre chair ou ce que le diable nous donne en échange. Parce que notre humain, notre corps, il y a beaucoup de satisfactions charnelles qui peuvent peut-être faire plaisir à notre corps, mais dans ce monde, là, comme des péchés, là, entre autres, on parle toujours de choses que Dieu aime pas. Ça a de l'air bien fun de faire des péchés, mais ça se compare pas en valeur comparée à dire qu'une personne a reçu la grâce de Dieu d'être pardonnée de ses péchés, de recevoir l'Esprit Saint, ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu qui nous a été prêté pour nous accompagner, puis il est là pour notre temps de pèlerinage terrestre, puis il veut demeurer en nous pour l'éternité. Faut saisir ce cadeau-là, parce qu'il dit c'est avec jalousie qui chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. L'Écriture parle pas pour rien, tout ce qui nous met en garde, c'est parce qu'il y a de quoi de précieux en nous, puis qu'il faut y faire attention. Faut prendre ça comme si c'est « Wow, si Dieu m'a donné son Saint-Esprit comme cadeau, faut que je fasse attention à ma vie, faut que je fasse surtout attention à pas à l'attrister. Je vois tous les pièges du diable ou les convoitises de ma chair ou les pièges de ce monde, faut que je rejette ça, puis faut que je m'attache à la grâce de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Il n'y a rien de plus important que cela. » Jacques, il nous le dit dans le verset 4-6, il dit « Au contraire, Dieu nous accorde une grâce plus excellente. » Plus excellente que quoi? Plus excellente de qu'est-ce que le diable peut t'offrir, ou qu'est-ce que le monde peut t'offrir, ou même tes convoitises charnelles peuvent t'offrir. Faut être prêt à balancer la valeur de la grâce de Dieu comparée au péché qu'on pourra commettre dans ce monde. Puis Jacques, il exhorte les chrétiens à arrêter de pécher. Parce que là, vous avez la grâce de Dieu, ça se mesure pas le cadeau que vous avez reçu. Faites attention. C'est ce qu'il essaye de nous dire. Ai-je déjà considéré ce que Dieu promet? Est-ce qu'on s'est déjà arrêté sur qu'est-ce que Dieu promet? C'est quelque chose, là. Il y en a beaucoup de choses que Dieu promet. Mais là, je vais vous en donner quelques-unes rapidement. Juste le fait de considérer la durée de nos jours à consacrer à Dieu en comparaison de l'éternité que Dieu nous donne en échange. Combien est-ce qu'on a de jours à vivre? 365 dans un an, 10 ans, c'est 3600, fois, si on se rend jusqu'à 50, 5 fois 3600, tu vas faire à peu près 15 000, 16 000 jours. C'est pas gros, 16 000 jours, 50 ans. Si tu te rends jusqu'à 100, tu vas en avoir 30 000 jours. Puis là, Dieu dit, donne-moi ta vie. Puis moi, je te donne la vie éternelle. Des milliards, 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 à l'infini, sans jamais de fin. C'est ça la longueur de vie que Dieu donne en échange de nos petits 30 000 jours si tu t'es rendu pendant 100 ans. Mais c'est sûr que celui que c'est impossible de servir Dieu pendant 100 ans, on vit même pas 100 ans, puis c'est même pas 30 000. Mettons, si on a 50 ans à vivre pour le Seigneur, j'en ai déjà 35 de vécu, même si j'ai encore 15 autres années. Je me rendrai à 15 000 jours vivre pour le Seigneur, que j'ai donné mon temps, ma vie, peut-être 15 000 jours au Seigneur. Puis je m'en vais l'autre bord, puis c'est l'éternité que je vais avoir en échange. Que ce soit aussi pour mesurer les afflictions, les efforts, les souffrances, les peines, les privations, les choses qu'on se dit qu'on lâche, qui nous fait souffrir, ou le fait de dire, parce que tu es chrétien, tu as des persécutions, tu as des souffrances, tu as des attaques, tu as des pièges du diable, tu as des choses qui t'affectent. Oui, il y en a. Mais qu'est-ce que c'est, ces afflictions-là, comparées au poids éternel de gloire que Dieu va nous donner? Il dit dans 2 Corinthiens 4:16, 4:17, nos légères afflictions du moment présent. Les légères afflictions, c'est appelé léger, parce que si tu mets ça dans la balance, comparé à comment est-ce que Dieu veut nous bénir dans l'éternité, ça se mesure même pas. La balance fait tout de suite ça. Il dit, les légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Ça peut même pas se mesurer le poids éternel de gloire qu'on va avoir en échange de nos petites afflictions terrestres. Tu sais, quand tu te mets à calculer là, tout ce que Dieu nous accorde, c'est grandiose. Ça se calcule pas le petit peu de souffrance qu'on peut vivre pour Jésus à comparer d'une gloire immesurable, immensurable, immensurable. C'est ça, immensurable, incalculable qu'on va avoir là au bord. Puis quand on dit gloire, incalculable, ça dit ici, une au-delà, un poids éternel de gloire. Savez-vous c'est quoi la gloire? Elle doit déjà arrêter de penser, c'est quoi qui veut dire la gloire qu'on va avoir?
La joie qu'on va avoir.
Une joie, c'est une partie de la gloire. Mais être glorifié, glorifié, savez-vous ce que ça veut dire? Élevé. Quand il y a un roi qui est placé à quelque part, puis tout le monde sont là, puis ils se mettent devant lui, puis ils donnent des honneurs, puis tout le monde chante son nom, puis qu'il l'élève. Mais c'est ce qu'on fait à Jésus présentement. Savez-vous que Jésus veut faire de nous des rois et des seigneurs, qu'on va régner pour le 1000 ans sur la terre, puis on va régner pour la vie éternelle? On va être des rois et des seigneurs. Là, aujourd'hui, on est peut-être juste des chauffeurs d'autobus puis des professeurs d'école à la retraite. Mais on n'est pas grand-chose. On compte même pas dans la société. Mais Dieu, on est précieux pour lui. On est précieux, puis il y a de quoi de gros. Il y a de quoi de big qui s'en vient. C'est immense la gloire qu'il réserve à ses saints. On va juger les anges. C'est pas des farces. On va juger sur la nouvelle terre. Ça va être extraordinaire. Ça va être des grandioses, la gloire qui s'en vient. Puis on calcule aussi. On veut calculer des affaires que Dieu nous donne comparé à qu'est-ce qu'on a puis qu'est-ce qu'on on a en retour de la part de Dieu. Nous sommes participants de la nature divine. C'est pas des farces. Nous, ce qui a notre nature, c'est une nature naturellement chair et os de péché. Nature de péché, nature de malédiction, nature maudite, une nature méchante, une nature pourrie, perverse, corrompue, avec plein de mauvaises pensées dans notre nature. C'est notre nature, plein de mauvaises pensées, plein de mauvaises actions, plein de mauvaises paroles. On est pourri bord en bord. Ça, c'est la nature humaine. On y donne notre vie au Seigneur, il pardonne nos péchés, puis il met en nous quelque chose d'extraordinaire, son esprit. C'est la nature divine qui ment nous. Tu deviens une nouvelle créature, puis à partir du moment que tu l'as reçue, tu as commencé à changer. Parce que, elle est là. Ta vie commence à changer parce que Dieu est entré dans ta vie. Cette nature-là, c'est pas la nature terrestre, charnelle et diabolique. Sa nature de Dieu, la nature de Dieu qui est venue en toi, puis que ça va procurer en toi la sainteté, la pureté, une transformation pour devenir comme Jésus. Dans 2 Pierre 1,4, ça nous dit, « Il nous assure de sa part, Dieu nous a assuré de sa part, les plus grandes puis les plus précieuses promesses. » Il n'y a rien de plus précieux que qu'est-ce que Dieu a promis à son peuple. Afin que par elles, ses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Wow, c'est extraordinaire. Il n'y a rien dans ce monde qui aurait pu vous donner ça, à part que l'œuvre de Jésus. Ça, c'est tout. Je vais parler de 3 points rapidement, là. C'est juste pour nous faire comprendre la grandeur de la grâce de Dieu, son cadeau. Comment est-ce que c'est beau, son cadeau? Considérant tout ce que Dieu offre, réalisons-nous l'importance de s'approcher de Dieu pour le petit peu de temps qui nous reste. C'est ce que Jacques essaye d'exhorter les gens en essayant de leur faire comprendre, de résister au péché, de fuir le péché, puis les convoitises charnelles, les attraits de ce monde, puis les pièges du diable. Mais fuir ces choses-là, le petit peu de temps qu'il nous reste à vivre pour Dieu, vivons pour Dieu à plein, au maximum, consacrés. Vouloir se purifier, vouloir être différent, vouloir marcher dans l'amour pour plaire à notre Dieu, pour que ce Dieu il soit content de nous, puis qu'il nous déverse encore plus de grâce dans notre vie présente. On doit réaliser l'importance de s'approcher de Dieu. Dans Jacques 4,6, ça nous dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Fait qu'il dit, si tu veux t'approcher de Dieu, arrête de te penser, puis sois humble. Si tu t'arrives avec l'attitude d'humilité, à être humble, ça plaît à Dieu. Être humble, c'est de pas se penser qu'on est quelqu'un de bien bon, de bien fin, de plus smart que les autres, puis qu'on est capable de s'arranger tout seul. Être humble, c'est quelqu'un qui est capable de dire, moi, j'ai toujours besoin de Dieu dans ma vie. Moi, je veux toujours plaire à Dieu. Moi, j'ai besoin de Dieu pour qu'il me guide, qu'il me conduise, qu'il exauce mes prières, qu'il me transforme, qu'il m'emmène dans son royaume. Être humble, c'est de toujours vouloir dépendre de Dieu, puis d'élever Dieu, puis de se tenir humble. Humble, ça veut dire pas se vanter, pas s'élever. C'est le travail de chaque chrétien de se soumettre à Dieu puis de résister au diable. C'est ce qu'il est en train de dire dans Jacques 4,7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu puis résistez au diable. Il fuira loin de vous. C'est pas Dieu qui va le faire à notre place de résister puis de soumettre. Chaque chrétien est appelé, tu veux grandir dans la grâce, réalise la grandeur de ses cadeaux, puis désire t'approcher de lui, puis de vouloir marcher d'une manière qui lui plaît. Si tu veux marcher d'une manière qui lui plaît, résiste au diable. Dis-y non. Chasse-les au nom de Jésus. Prends tes combats en main, puis défends-toi, bat-toi pour en avoir plus de Dieu, puis moins du diable dans notre vie. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut aller confesser les versets de la Bible pour combattre le diable, comme Jésus a fait. C'est le travail de chaque chrétien de faire des efforts pour s'approcher de Dieu puis s'éloigner du péché. Dans Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Wow, c'est super. « Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » C'est le devoir de chaque chrétien de se purifier, de se laver. Parce que quand on réalise qu'on a fait de quoi de pas correct, c'est d'aller tout de suite demander pardon à Dieu puis demander que le sang de Jésus nous purifie puis qu'il nous libère en plus de tout cela. Puis quand ça arrive, l'occasion de pécher, mais dis non. De pas embarquer, de s'éloigner, puis Dieu va vous donner sa grâce. Vous allez vous approcher davantage de Dieu, puis il s'approchera de vous, puis la grâce de Dieu va être dans votre vie, puis vous allez goûter encore plus de ses bénédictions. On peut pas courir pour le péché, puis de vouloir Dieu en même temps. Impossible. La minute qu'on se livre au péché, on a rompu notre communion. Il faut demander pardon au Seigneur, parce que ça l'offense grandement le Saint-Esprit qui est en nous, que Dieu nous a donné, que Dieu chérit. Fait qu'il nous demande de soumettre à Dieu, de résister au diable, il nous demande de s'approcher de Dieu, puis de nettoyer nos mains, pécheurs, de purifier nos cœurs. Nos cœurs, c'est là que tu sortes nos mauvaises pensées, puis il faut purifier nos cœurs. Devenir résolu à vouloir le changement dans notre vie. On veut-tu vraiment du changement? Dans la Bible, il y a un temps pour rire, puis il y a un temps pour pleurer. Puis il y a des versets, ça, il y a un verset qui dit ça, dans Ecclésiaste, il y a un temps pour rire, puis un temps pour pleurer. Paul nous dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » La joie doit être dans la vie des chrétiens. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps où il est le temps de pleurer. Quand ça qu'il faut que je pleure? Mais dans Jacques, au verset 9, il nous dit, « Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Quand ça? Quand qu'on pêche. Quand qu'on pêche, quand qu'on désobéit à Dieu, quand qu'on fait des péchés, on doit tomber en deuil, en larmes, que notre rire se change en deuil, puis notre joie en tristesse. C'est ce que ça nous dit dans ce passage-là. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Quand qu'un chrétien se patauge dans des choses que Dieu veut pas, qu'ils prennent pas ça en rien, là, surtout pas, parce que c'est triste, c'est grave, puis ça attriste le Saint-Esprit, puis faut faire comme David, qui s'est humilié, qui a demandé pardon à Dieu, il a même écrit un psaume, il a pas caché son péché, tout le monde l'a chanté son chant par la suite, tout le monde l'a su qu'il a fait un péché, puis qu'il était repentant, puis le monde le chantait, puis le monde s'est servi de ça, ensuite, pour que eux autres aussi, ceux qui péchaient, se servaient de ce psaume-là dans le but de se repentir et de demander pardon au Seigneur. Il y a une différence de contexte quand tu as le temps pour rire et tu as le temps pour pleurer. Lorsque les chrétiens sont tombés dans le péché de leur chair ou du monde ou du diable, la meilleure manifestation de repentance, c'est de reconnaître notre état et de faire comme Jacques dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Le Seigneur, n'oublions pas, le Seigneur élèvera celui qui s'humilie. Puis quand tu te repens, puis tu sens ta misère, puis tu confesses avec larmes tes péchés, tu es en train de t'humilier, c'est là que le Seigneur nous élève. Dieu, il n'y a pas de bénédiction pour les hommes pervers, les méchants, les moqueurs. Il n'y a pas de bénédiction pour ceux qui marchent dans le péché. Sa bénédiction est pour les humbles. On voit ça dans le Proverbe 3, le verset 32 à 35. Ça nous dit, « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Dieu veut bénir ceux qui ont le cœur droit, juste, humble, sage. Cherchons Dieu davantage et fuyons, combattons, résistons contre le mal, le péché, sous toutes ses formes. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, parce que ta parole fait du bien. Elle nous transforme, elle nous édifie, elle nous fortifie. Puis ta parole nous nourrit, Seigneur. Puis elle nous éclaire, elle nous montre le chemin. Seigneur, on veut marcher à l'exemple des enseignements de Jacques, à chercher davantage ta présence, à chercher à vivre sous ta bénédiction, sous ta grâce. On considère qu'il n'y a rien de plus grand que tout ce que tu nous donnes en Jésus. On veut vraiment te servir, te louer, te plaire, te glorifier, t'adorer, parce que tu es notre Dieu. Prends nos vies, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne notre vie tout entier. Notre esprit, notre âme et notre corps t'appartiennent. Viens nous changer, nous rendre un, puis nous garder dans le sentier resserré qui mène à la vie. Nous remettons nos ventres entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.